France Inter.
C'est que être artiste, créer et s'exprimer, c'est pas forcément être le meilleur, c'est pas forcément vendre, c'est s'exprimer. Donc cette revalorisation du besoin d'art, du besoin d'image, ça touche des problèmes de sociologie, ça touche des problèmes politiques sur le plan de l'art, du cinéma, de la peinture et des livres. C'est-à-dire, est-ce que c'est les best-sellers qui sont bien écrits, ou peut-être des livres qu'on aime lire, qui nous accompagnent dans notre vie, qui sont importants dans notre vie, qui sont pas tellement vendus.
Toute cette semaine, nous écoutons Agnès Varda. Le premier jour, c'était Agnès qui parlait d'elle-même. Le second jour, c'est Agnès qui parlait de cinéma. Le troisième jour, c'était Agnès qui parlait des femmes, de son engagement féministe, mais aussi de son amour des actrices. Ce soir, quatrième épisode de notre série Varda, l'irrévérencieuse, Agnès et l'art. Effectivement, le dernier cycle de sa vie a été consacré à l'art, l'art qui l'a obsédée depuis qu'elle était une toute jeune femme. En première partie, vous entendrez la voix d'Agnès sur sa définition de l'artiste, puis ensuite le témoignage du directeur de la Fondation Cartier, Hervé Chandès, qui le premier l'a exposé, avant de terminer par un entretien entre Agnès Varda et Christian Boltanski, daté du 11 mai 2010. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Anita Ward, Ring My Bell.
You did by the look in your eyes.
Look in your eyes.
Look in your eyes.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'être artiste, créer et s'exprimer, c'est pas forcément être le meilleur, c'est pas forcément vendre, c'est s'exprimer. Donc cette revalorisation du besoin d'art, du besoin d'image, elle est très importante. Je crois que c'est très important et très intéressant de voir qu'il y a des gens qui disent « Bon, ben, je veux faire ça sur ma maison, sur la maison du voisin, dans ma rue, dans mon quartier. » Des fois, ils s'y mettent à plusieurs. Vous avez vu, il y a des peintures collectives faites par même des délinquants pour peindre collectivement l'histoire de leur pays, etc. Et je veux dire que ça touche des problèmes de sociologie, ça touche des problèmes de société, bien sûr, en temps quotidienne.
Ouais, c'est très politique, c'est très, très
c'est politique. Mais c'est politique sur le plan de l'art, du cinéma, ah, oui, de la peinture et des livres. C'est-à-dire, est-ce que c'est les best-sellers qui sont bien écrits, ou peut-être des livres qu'on aime lire, qui nous accompagnent dans notre vie, qui sont importants dans notre vie, qui sont pas tellement vendus. Alors, il se trouve qu'à l'âge que j'ai maintenant, je veux dire, j'ai assez fait de cinéma pour savoir que je suis pas dans le peloton qui fait du fric et qui a du succès. Je veux dire, j'ai jamais eu un film. Même ces films dont vous parlez très bien, dont vous dites qu'ils ont été très aimés, etc. C'est vrai que Cléo de 5 à 7 est un film aimé, vraiment aimé. Mais, et il a fait 200 000 entrées à Paris, ce qui est quand même très bien. Il sortirait maintenant de cinéaste inconnu, il ferait 40 000 entrées. Cléo de 5 à 7, film raffiné, tendu, etc. Il a bénéficié d'un moment où la nouvelle vague, le cinéma d'auteur, tout ça, l'a fait paraître comme un film qu'il fallait courir voir. Mais je sais très bien que ce film-là, il serait signé par quelqu'un
d'autre.
Mais
l'une chante, l'autre pas. Il a eu du succès, je crois.
Non.
Non.
Alors, on a beaucoup parlé, il a été très discuté, il a été très débattu. Il a quand même été boudé. Parce que c'était ou trop féministe pour les uns, ou pas assez féministe pour les autres. Mes films, ils font parler, ils font partie du mouvement d'idées, je crois, des gens de ma génération et des suivants. Mais ils sont pas des gros succès, quoi. C'est pour ça que je n'ai jamais d'argent pour faire les suivants. C'est pour ça que je suis devenue productrice par désespoir, parce que personne ne me produit.
On ne sait plus très bien si c'est le capital qui court après le travail ou le travail qui court après le capital. Comme on ne sait pas toujours si c'est l'art qui imite la vie ou la vie qui imite l'art.
L'art qui imite la vie ou la vie qui imite l'art.
C'est ma voix, ça?
On ne reconnaît jamais sa propre voix.
Et particulièrement maintenant, parce que la liberté qu'on a dans une galerie ou dans un musée est différente. Elle est que, moi qui ai tant aimé travailler pour des écrans plats que des personnes dans le noir regardent, j'apprécie beaucoup de pouvoir déformer l'écran, de pouvoir montrer des films dans les coins, de pouvoir faire jouer et la photographie et le cinéma, comme ce que j'ai créé cette année, qui m'a à moi-même fait plaisir, puisqu'il y a des portraits à l'ancienne, fait avec un négatif argentique, agrandi, posé au mur.
Fixe.
Fixe, comme un portrait qu'on accrocherait au mur chez soi. Et ils sont accompagnés à droite et à gauche de deux volets, ce qui compose un triptyque assez régulier, à part que les volets sont en mouvement et recréer cette vie relative au portrait en question ou l'accompagnant. Et ça, c'est comme si je réconciliais mes deux amours, photographie et cinéma. Je veux dire que ce sont les deux mamelles de la représentation. Mais parce qu'il y a ce désir de choisir l'immobilité qui fixe quelque chose qui est complètement intéressant, comme si la photo d'identité ou le portrait sur le lit de mort pouvait résumer toute une vie ou la raconter. Et en même temps, le mouvement, la captation du mouvement de la vie, des yeux qui brillent, alors il y a par exemple une petite fille devant une vache, une photo immobile, une petite Alice devant des grandes vaches blanches. Et j'ai filmé des vaches. Et qui, comme beaucoup de vaches, restent quelquefois immobiles à vous regarder. L'air de rien, elles bougent pas. Et il y a des moments où la photographie et les films latéraux sont immobiles. Et puis, il y a une vache qui bouge son grand cil, vous savez, ils ont des très grands cils clairs, une autre qui bouge une oreille, et puis elles se mettent à bouger, puis elles se cognent. C'est-à-dire, il y a des moments où elles sont vraiment en mouvement, et d'autres moments où elles reprennent quelque chose à la limite de la photographie. Et ça me passionne, moi, cette expérience. Où est-ce que c'est le passage? Exactement, où est-ce que c'est le passage entre le documentaire et la fiction? C'est toujours ces questions que je me suis posées. Où est-ce qu'on glisse dans un documentaire, où est-ce qu'on invente un peu, et dans une fiction, comme Sans toi ni loin, dont un monsieur m'a parlé dans l'ascenseur, ça a l'air d'un documentaire, et c'est complètement fiction, c'est complètement joué par Sandrine Bonner, par des gens dans la région de Nîmes. Et ça a une texture documentaire. Et c'est une fiction. Donc, je ne veux pas jouer au jeu des attrapes, mais cette dernière partie de ma vie où je profite des expériences que j'ai faites en photographie, en cinéma, me permet de jouer avec tout ça pour des installations qui sont diverses, qui posent des questions, qui m'amusent, même à moi. C'est-à-dire, je m'amuse à les faire parce que le questionnement, je lui donne une forme de représentation. J'essaie que ce soit pas embêtant, que ce soit pas... c'est pas que je veux pas que ce soit agressif, mais je veux que les gens soient surpris et se posent des questions. Et parce que c'est ça que j'aime, moi, quand je regarde quelque chose. J'ai d'ailleurs même peur de lasser tout le monde maintenant, parce que je suis un peu... Je crois que parce que j'ai beaucoup vieilli et que je sens arriver la fin, je vais de plus en plus vite. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je produis tout le temps. Alors, je me dis, comme il y a toujours des gens pour faire de la promotion, pour parler de moi, ou bien pour m'inviter, je me dis, ils doivent en avoir un petit peu assez, parce que en 2012, j'ai fait 2 expositions en Chine, qui étaient extraordinaires pour moi. J'ai exposé des pièces contemporaines, j'avais fabriqué un portique chinois tout rouge, et puis je montrais des photographies anciennes. Bon, alors après, dans la même année, j'ai exposé à Nantes, dans cette chose très formidable que Jean Blaise et David Moinard ont lancé, vous savez, le voyage à Nantes et Estuaire. Ce sont des grands rendez-vous d'art contemporain, avec des surprises, des choses formidables. Mais je ne sais pas si on me prend, on m'a invité à Séville, dans un très beau musée qui était un ancien couvent. Et chaque fois, j'expose des choses, il y a des gens qui ont l'air contents. La première fois qu'on m'a invité à la Biennale de Venise, en 2003, j'y croyais même pas. Parce que j'osais pas m'intituler artiste, j'osais pas aller dans la cour des grands. Parce que je fréquentais beaucoup les musées, j'aimais l'art, et les livres qui sont extraordinaires maintenant, les livres d'art. Moi qui n'ai connu que des livres en noir et blanc, les livres sur Van Gogh étaient en noir et blanc. Alors maintenant, je me régale avec ces publications où on peut revoir... réapprécier un détail et tout ça. Donc, je suis là-dedans jusqu'au cou. Et puis, on m'invite. Vous pensez que c'est comme si on avait ouvert une porte que j'attendais. Vous savez, ouvrez-moi cette porte ou je frappe en pleurant. C'était ça.
Nous venons d'entendre la voix d'Agnès Varda parler de la dernière partie de sa vie où elle a acquis une notoriété internationale en tant qu'artiste visuelle. Elle aimait pas dire artiste plasticienne. Vous, Hervé Chandès, qui êtes le directeur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, quand avez-vous compris qu'Agnès était une grande artiste, et d'abord une artiste ?
Les premières fois que j'ai vu des œuvres d'Agnès, cinéaste ou artiste, en fait, tout ça, c'est un peu la même chose. Peut-être, je crois que aujourd'hui, on qualifie d'artiste des créateurs qui utilisent un autre vocabulaire que celui du cinéaste, mais voilà, c'est plutôt une question de vocabulaire, de langage, d'outils et de langage, que de artiste par artiste ou cinéaste. Moi, c'est la toute première fois, c'était à la galerie Abou Kaya, c'était à Paris, où j'avais vu les veuves de Noirmoutier. Mais je les avais vues après que Agnès m'ait vivement encouragé à aller les voir. Ça m'a frappé, ça m'a intéressé, ça m'a plu, ça laisse songeur, ça fait réfléchir.
Alors vous pouvez décrire ce que c'est que cette installation, je crois qu'on appellerait ça aujourd'hui une installation.
Ben malheureusement on utilise ce mot horrible, c'est un grand écran donc entouré de plein de télévisions disons, et sur lesquelles à tour de rôle des veuves de marins, de Noirmoutier prennent la parole et racontent leur deuil. Il y a des chaises qui sont installées dans la salle. Et les spectateurs, je crois que c'est la formule d'Agnès, c'est 18 chaises peuvent écouter ce que racontent les personnes. Donc, je pense pas qu'il y ait d'interview. Je pense qu'elles racontent leur deuil.
Agnès qui elle-même passait tous les étés à Noirmoutier.
Agnès elle-même qui passait tous les étés à Noirmoutier et qui elle-même était Noirmoutier aussi et le lieu du deuil de Jacques Demy également. Les veuves de Noirmoutier, c'est la toute première fois. Mais j'avais croisé ici et là Agnès, surtout évidemment à la Fondation, parce que Agnès, elle a toujours été très, très curieuse des artistes. Elle posait plein de questions, elle venait au vernissage, aux expositions, elle restait un moment, elle posait des questions. On l'a entendu, on sent bien cette curiosité permanente d'Agnès Varda. que ce soit les artistes ou, comme elle disait, les autres, parce que les autres sont présents. On parlait des veuves, les veuves sont les autres aussi. Les autres, ce sont les chats aussi, par exemple. Enfin, les autres. Pour continuer un peu ce fil des artistes, je me souviens, peut-être la toute première fois que j'ai rencontré Agnès, c'était à la Fondation Cartier, c'était lors du vernissage d'Issey Miyake. Et Issey aimait beaucoup Agnès et inversement. C'était la toute première fois. Et puis, on s'est plutôt croisés que rencontrés dans les années suivantes. Et ensuite, je suis allé la voir. C'est elle qui, elle a dû m'appeler. Je suis allé la voir chez elle, rue Daguerre. Elle était installée dans son sofa habituel. Elle m'a placé en face et elle a commencé à parler. Je l'écoutais. Puis voilà, c'était. Je sentais qu'elle voulait. Agnès, elle cherchait des lieux d'expression. Elle l'a très bien dit là précédemment. Combien le cinéma est compliqué, peut être compliqué, coûte beaucoup d'argent. Agnès a toujours aimé. Enfin, je témoigne. C'est un témoignage. Agnès a toujours aimé le travail collectif, que ce soit avec son équipe de studio Tamaris, qui était un travail très très extraordinaire, avec ses enfants et avec le monde du cinéma en général. Mais quand même, le domaine de l'exposition, c'est un travail un peu plus solitaire, tout de même, et avec d'autres libertés, ou avec des libertés plutôt que d'autres libertés, par rapport au système du cinéma. Je sentais bien qu'elle cherchait un espace pour qui lui permettrait de créer, tout simplement.
Mais elle crée depuis qu'elle était jeune. Et d'ailleurs, dans une des émissions précédentes, elle rappelait elle-même qu'elle avait fait l'école des Beaux-Arts. C'était la raison pour laquelle elle avait quitté Sète pour rentrer à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et puis, bon, on a l'impression que sa vie, elle est faite de successions, de rencontres, d'accidents de la vie, comme ça peut nous arriver à tous. Ouais. Elle a commencé à être toucheuse pour gagner un peu de sous. Ensuite, elle a fait de la photographie. Ouais. Ensuite, elle a voyagé. Avez-vous l'impression, vous, Hervé Chandès, que, comme elle le disait elle-même, cette dernière partie de sa vie, elle est revenue à quelque chose qui l'obsédait dès son enfance? Ou est-ce que, comme elle vient de le dire tout à l'heure dans l'archive qu'on a entendu, ou est-ce qu'elle a sédimenté toutes ses connaissances en photographie, en montage cinématographique, en regard, parce que c'est une observatrice hors pair, pour pouvoir devenir une artiste internationale?
Peut-être la deuxième option, c'est la bonne. J'ajouterai les mots qui sont importants chez Agnès. J'ai essayé de raconter un peu les veuves de Noirmoutier qui nous racontent des choses. Les mots ont toujours été, enfin, il me semble que sont souvent chez Agnès Varda déclencheurs d'images ou déclencheurs d'une rêverie, déclencheurs d'idées et ainsi de suite, et déclencheurs d'œuvres d'art. Donc le cinéma, la photographie, le son. Évidemment que le son est inclus dans le cinéma, mais quand même, elle a un rapport à la voix, un rapport à l'écoute, à la parole. Agnès, on l'a entendu, elle a une parole très fascinante, en permanence, fascinante, très intelligente, très argumentée, très précise. Elle attendait ça des autres également, souvent.
Vous avez fait plusieurs expositions avec Agnès Varda dans la Fondation Cartier, une fondation qui a pour particularité d'être un très beau bâtiment moderne, avec des murs transparents et d'être entouré par un très beau jardin. Et je me souviens que Agnès Varda, à chaque fois qu'elle passait devant votre fondation, elle y rentrait, même évidemment si c'était pas une expo d'elle, parce qu'elle se sentait bien là. Mais je me souviens aussi d'une préparation d'exposition que vous avez faite avec elle. Je me souviens de sa précision, de sa rigueur, de son obsession, comme si elle allait pas arriver à boucler une exposition. Avez-vous l'impression qu'elle était d'une nature très angoissée pour pouvoir arriver à une sorte de perfectionnisme dans son rendu artistique, Hervé Chandès?
Je dirais pas ça. Enfin, j'ai jamais associé le mot angoissé à Agnès Varda. Non, c'est pas le mot. Peut-être je peux raconter comment s'est un peu passée l'exposition, parce qu'elle s'est passée très vite dès lors que je l'ai invitée à la Fondation Cartier.
Donc vous avez fait d'elle une artiste? Puisque ouais. vous l'exposiez.
On l'a fait d'elle. Elle l'a raconté d'une autre manière. Mais en tous les cas, à la Fondation Cartier, elle est rentrée dans un lieu d'exposition, dans un lieu d'artiste.
Elle n'était pas peu fière. Hein.
Oui, à juste titre. Hein. À juste titre. Et nous aussi, d'ailleurs, je dois le dire. Parce que Agnès, il y a eu cette exposition, mais il y a eu une multitude d'autres situations avec elle à la Fondation, dans le jardin, le soir, le jour, le matin. Mais dans l'exposition dont on parle, il y avait par exemple une installation autour du chasse-gougou. Et ce chasse-gougou, les chats, on le sait, on compte pour Agnès. Puis il y a les chats qu'elle aimait plus ou moins, qui avaient plus ou moins de distance avec elle, etc. Donc cette dite installation était dans l'exposition. Puis un jour, je me suis dit que au fond, on devrait l'installer dans le jardin de la Fondation, comme de la planter dans le jardin, comme on plante un arbre. Puis je l'ai appelée, l'idée lui a plu, et c'est là qu'elle a dessiné une cabane, et on a installé, c'est une projection qui représente la tombe du chasse-gougou. Le chat et son chat est en permanence dans le jardin de la Fondation. Et c'est un peu ça la relation entre Agnès Varda et la Fondation Cartier, parce que c'est vraiment une sorte d'intense familiarité, hein, comme celle-ci.
Alors il y a elle qui crée, et puis il y a nous qui regardons ce qu'elle nous offre à voir ou à regarder.
Oui.
Et ça, c'est un des traits caractéristiques de l'œuvre artistique d'Agnès Varda. Vous avez parlé des veuves de Noirmoutier, mais dans beaucoup d'autres, j'ai pas d'autre mot que ce vilain mot d'installation. Oui. Ça s'appelle, et un autre méchant mot d'interactivité.
Oui,
il n'empêche, oui, c'est pire encore, mais on pourrait dire ça autrement, de manière beaucoup plus simple. Son art nous parle. C'est fait pour nous, pour chacun d'entre nous.
Oui, il s'adresse à nous, clairement. Agnès, elle a, enfin, je l'ai toujours senti dans cette préoccupation de s'adresser aux autres, clairement, et dans tout le cheminement des œuvres, parce que une exposition comme celle-ci, mais d'autres, elle pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Elle montre des choses à l'état en leur début. Elle partage. Elle a beaucoup partagé, beaucoup posé de questions. Toujours curieuse je l'ai toujours entendue et ou vue curieuse de la réaction des autres. C'est vraiment une artiste qui, je crois que tous le font, mais avec plus ou moins d'attention. Ou de préoccupation, je crois qu'elle était effectivement préoccupée par ça, par communiquer avec les autres. Il me semble qu'en effet, c'est toujours essentiel chez elle.
Alors, elle a dit elle-même que quelquefois on se moquait d'elle en disant qu'il y avait un côté marabout bout de ficelle. Et effectivement, on peut voir dans la dimension de l'œuvre artistique ce côté marabout bout de ficelle qu'elle a entièrement magnifié. Par exemple, à partir de ce magnifique film sur la glaneuse, elle a trouvé l'idée des pommes de terre. À partir des pommes de terre, elle a elle-même fait une apparition dont tout le monde se souvient, à la Biennale de Venise, qui est quand même un des lieux d'exposition au monde les plus remarqués, les plus remarquables, où elle s'est exhibée elle-même en patate, au milieu d'un immense champ de patates. Comment jugez-vous ce côté un peu post-surréaliste, mais un peu aussi, je fais fonctionner mon imaginaire à toute vitesse et il en sortira quelque chose?
Oui, il y avait un côté bidouillage presque. Il y avait, je crois, un côté bidouillage dans son propre cheminement. L'œuvre, dans sa réalisation, dans sa mise au point, précisément, il y a justement la mise au point. Enfin, toutes les œuvres qu'on a pu exposer, que celles que l'on décrit à l'instant, ou qu'on a décrit, ou d'autres, il y a toujours une mise au point, il y a toujours une grande souci de précision chez Agnès Varda. Mais effectivement, elle avait ce côté bidouillage, ce côté joueur. Elle était entourée aussi avec des gens, je pense à Christophe, qui mettait au point, qui dessinait, qui caricaturait, elle s'amusait de tout ça. Je crois que ça a été son grand plaisir. Enfin, moi, ce dont je peux témoigner, puisque c'est le mot, c'est son plaisir de faire des choses, tout simplement, et sa détermination dans la mise au point final. Un peu comme ça, c'est peut-être pas très très clair, mais c'est quand même ça.
En tout cas, il y a des formes qui réapparaissent par cycle à l'intérieur de sa production artistique. On a parlé de cabane, la cabane est très importante. Très parlé de cette cabane qui est dans votre fondation, dans votre jardin, sans doute à tout jamais. Il y a eu aussi cette cabane qui a été exposée il n'y a pas très longtemps à la galerie Nathalie Obadia, où elle avait pu recycler toutes les chutes des films, du film Le Bonheur qu'elle avait installé dans cette forme cabanesque, si j'ose dire. La cabane, c'est le lieu éphémère, c'est un lieu modeste, c'est un lieu pour les jardiniers. Une des dernières œuvres qu'elle a faites, c'était pour le festival de Chaumont-sur-Loire, où elle a créé justement pour ce festival de jardin une œuvre éphémère à partir du végétal. Et vous, Hervé Chandès, qui êtes un homme fidèle et qui savait reconnaître les vrais artistes, vous avez eu un long compagnonnage avec elle, mais vous lui avez demandé de participer à cette exposition qui va bientôt s'ouvrir, qui est consacrée aux arbres.
Ouais, qui s'appelle « Nous les arbres », justement. La cabane, elle aimait beaucoup le mot, d'ailleurs. Chez elle, c'était vraiment les mots qui... On l'a dit, mais je l'ai souvent entendu le dire, c'est vraiment les mots qui dirigent la pensée. Et donc qui entraîne vers l'image. Et la cabane, c'était aussi des souvenirs d'enfance. Et pour revenir plus précisément à la question, c'est lorsqu'elle exposait donc sa dernière exposition à la galerie Nathalie Obadia, il y a un an peut-être, il y avait une souche d'arbre, un tronc d'arbre plutôt, avec la souche. Et cet arbre venait de chez elle, rue Daguerre. Elle avait dû l'abattre parce que problème ou pas de voisinage, je ne sais plus. Un arbre important. Et donc, l'arbre était couché dans la galerie. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après l'exposition? Est-ce que tu veux pas le mettre dans le jardin? Dans le jardin de la Fondation Cartier. Mais je dis, évidemment, on va le mettre dans le jardin de la Fondation Cartier. Parmi les autres arbres du jardin. Donc, c'était l'arbre d'Agnès. Et puis, je lui ai parlé de cette exposition et elle m'a dit, je vais y réfléchir. Et ce qui nous ramène au chat, parce que elle a un chat qui s'appelle Nini, figurez-vous. Et ce sacré Nini, c'est le chat préféré d'Agnès. Et je me souviens les derniers jours, les dernières fois que j'étais chez elle, à rue Daguerre, Nini était toujours couché sur la table, vraiment à proximité d'Agnès. Elle eut cette idée de faire le portrait faire le portrait de Nini en trois dimensions. Et de le poser sur cette souche d'arbres. Dans l'exposition à la Fondation là qu'on ouvre au mois de juillet, il y aura l'arbre d'Agnès sur lequel se trouve le chat Nini. Donc voilà, c'est des histoires un peu comme ça. C'est un peu la Fondation Cartier, Agnès Varda, c'est un peu de Zgougou à Nini. Voilà le style.
Elle vous a donné un texte. Je crois que c'est le dernier texte écrit par Agnès. Est-ce que vous auriez la gentillesse de le lire, Hervé Chandès?
Oui, je vais essayer de le lire. Un texte qu'on lui avait demandé pour le catalogue de l'exposition et qui ouvre le catalogue de l'exposition. Je vais lire. Ça s'appelle « L'arbre ». Un arbre debout, seul, un dessin dans l'espace d'un grand pays plat en hiver. Immense, noir, c'est l'arbre. Ailleurs, ils étaient nombreux, les êtres d'une forêt proche de ma maison d'enfance. On parlait beaucoup d'une clairière, l'étang des enfants noyés. La force des mots dans le souvenir est quelquefois plus forte que le souvenir même. Ces enfants noyés en pleine forêt n'ont jamais tout à fait quitté ma pensée. La forêt reste pour moi attirante et mystérieuse. Marcher parmi les troncs, voir leur force qui s'élève vers la lumière et deviner leurs racines puissantes. C'est un labyrinthe. Ansel et Gretel ont bien eu peur. Ah, ces enfants que l'on voulait perdre. Vive petit poussé malin et ses cailloux blancs. En fait, je crois que j'ai peur des forêts, sauf des forêts de pins. L'odeur l'emporte sur les impressions. Revenons aux arbres isolés. Ce qui compte dans notre vie. Le cerisier dans le jardin, un saule pleureur sur le chemin du marché, un cèdre gigantesque sous lequel j'ai aimé être assise, et les arbres par-ci, par-là, avec lesquels on a rendez-vous en passant. Maintenant, il existe des chambres installées dans les arbres. On pense à l'échelle pour y aller dormir. On sera au-dessus de la terre ferme. Cela fait suite aux cabanes improvisées que l'on installait en bricolant des bouts de planches entre les branches. Des planques, des cachettes pas secrètes. C'était pour jouer, pas pour dormir. Le lit, c'est autre chose. Couché dans mon lit, je m'imagine parfois sur l'eau d'une rivière qui devient fleuve et descends doucement vers la mer, mais plus souvent je me pose dans un arbre comme dans un nid. J'ai envie de construire une cabane dans un arbre, une cabane aérienne, une cage ouverte, une volière à tout vent, un abri à mes anges. Paris, 11 mars 2019, Agnès Varda.
De ces collines où du matin à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e. Tout est si loin, je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset boulevard, des Indiens nous vendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. De ces collines où tu m'attends Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express.
C'était l'aérogramme de Los Angeles par Louis Garrel et Woodkid. Maintenant, place à l'entretien d'Agnès avec Christian Boltanski, archive INA, 11 mai 2010.
J'ai une grande admiration pour ceux qui travaillent à la radio. C'est une chose qui me fascine toujours, c'est qu'ils ne regardent pas l'horloge, mais on sent, quand on a une interview, qu'on est vers la fin.
Moi, je me rappelle, j'avais fait cette émission, Une minute pour une image, où je demandais aux gens de commenter pendant une minute. Et tu avais des gens qui avaient ce sens-là.
C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. J'en ai fait, je ne sais plus quelle image, mais j'étais très impressionné. D'ailleurs, c'était une émission absolument prodigieuse. Moi, je pense que c'est une des meilleures émissions qu'on ait fait sur l'art à la télévision.
La photographie. On montrait une photographie dans le silence, sans dire quoi ni qu'est-ce. Et puis, un commentateur off, inconnu, parlait pendant une minute. Puis, on remontrait l'image et on disait, c'est une photographie de Cartier-Bresson commentée par Boltanski, mais commenté par une photographie de Doineau, commentée par ma boulangère, etc. Et les gens ensuite avaient de nouveau 10 secondes où ils pouvaient se dire, moi j'aurais dit autre chose. Mais ce dont nous parlons là, c'est que parmi les 170 personnes que j'ai dérangées pour qu'ils commentent une photographie, il y en avait qui avaient le sens de la minute et qui parlaient 57 secondes, 62 secondes. Et d'autres qui s'étendaient, qui n'arrivaient pas. Alors je leur disais, on va couper, vous le savez, on remontera le son. Mais essayez que ce soit. Quelquefois, ils refaisaient en presque une minute.
Est-ce que tu veux le ressortir? Parce que moi, j'aimais beaucoup les interludes. Est-ce que tu te rappelles les interludes qu'il y avait à la télévision?
Il
y avait le petit train qui passait comme ça. Et alors, ce serait formidable de demander à des metteurs en scène de travailler vraiment sur l'idée d'interlude. Mais maintenant, je pense que la télévision est trop... fonctionne trop bien.
Ça permettait d'aller faire pipi.
Ça avait une chose extrêmement intéressante, c'est que c'était des films qui ne devaient pas avoir de temps donné.
Oui,
ils pouvaient durer, justement, 20 secondes ou 2 minutes. À un moment, je voulais faire... mais ça, j'ai jamais fait, des spectacles pendant les entr'actes d'opéra. Parce que quand les gens vont à l'opéra, la plupart du temps, ils sont très contents de l'entraille parce qu'ils peuvent aller boire un verre de champagne, puis bavarder, etc. Et je me disais qu'à ce moment-là, ce serait bien de faire un entracte sur scène simplement pour embêter tout le monde. Parce que ceux qui partiraient pour aller boire le verre de champagne se diraient, ces pauvres qui sont en train de s'agiter et faire quelque chose et on ne les regarde pas. Et on verrait la salle se vider, il y a seulement 4 ou 5 personnes. Et puis soit on ferait un spectacle qui durerait comme ça, je ne sais pas, 12 minutes pendant l'entracte. Quoi. Et des spécialistes d'entracte.
Tu sais que je viens dans les choses que je viens de voir. Là. Je reviens, je suis revenue de Belgique, j'ai fait le petit crochet par le Frénois. Et il y avait une double exposition organisée par Raymond Bellour de Bill Viola et Thierry Kunzel. Des drôles de vidéos sur
très,
le
très,
temps.
Très bien.
Oh là, la Kunzel, il a fait un truc sur la peau qui va tellement lentement que tu ne sais plus si la peau est en train de se détruire ou au contraire de se reformer. Et la truc de Bill Viola, attends, non, je me trompe, c'est Bill Viola la main. Mais Kunzel, il y avait un truc qu'il a fait sur, tu sais, sur le mort. Ah, la vague qui s'arrête, c'est magnifique, tu sais. Il y a une vague et comme ça, quand le spectateur s'avance, le regardeur s'avance, il y a des pulseurs et la vague s'arrête complètement. Il faut que tu recules pour qu'elle reprenne. Et là, il y avait un truc un peu étrange où il se promène sur un corps qui est plus ou moins reconstitué en résine jusqu'au drap, on reste dans le drap. Et puis les deux écrans latéraux sont presque blancs. C'est-à-dire qu'il y a une petite perception du blanc qui devient un peu plus, qui redevient blanc. Enfin, c'est poussé à l'extrême, c'est vraiment minimal. Et là, je trouve que c'est trop minimal. Je trouve que quand les artistes poussent trop loin leur recherche minimale, je ne suis pas sûre que les spectateurs et les visiteurs peuvent partager.
Bill Viola, il a fait des choses absolument merveilleuses. Des pièces que je préfère de lui, c'est une vraie chambre à coucher, comme chambre d'hôtel, comme ça, et puis qui est allumée, puis de temps en temps, la lumière s'éteint, et pendant peut-être 15 secondes, on voit les trois murs qui sont remplis de chiens qui hurlent, d'images de cauchemar, quoi. Et donc, c'est vraiment l'idée du cauchemar, parce que tu as cette chambre tranquille, et brusquement, c'est des hurlements, et puis c'est tellement rapide que ça se disparaît. J'aime un peu moins ce qu'il fait aujourd'hui, qui est un peu trop comme une copie de vieux tableaux.
Des
tableaux très...
L'écran qui était au milieu, attends, et le type qui prenait feu ou qui était...
Ah, ça, c'est splendide.
Non, c'est quand même un créateur...
Ah non, mais je sais, c'est un homme prodigieux.
Un créateur d'images qui impressionne. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui?
Ah, il y a un téléphone qui sonne.
Je vais leur dire que non. Pas maintenant.
Alors, je vais en profiter pour demander à Christian comment il considère Agnès comme artiste. Parce que dans la première émission, Agnès nous a dit qu'elle avait eu trois vies, même si je pense que les trois vies sont encore en train de se pénétrer et de se féconder. La première, donc, c'était celle de photographe, la seconde, celle de cinéaste, et la troisième, celle d'artiste.
Je ne crois pas qu'on puisse séparer trois vies comme ça. Je pense que c'est la même personne. Et par contre, je crois toujours que Victor Hugo est le plus grand peintre du 19e siècle parce qu'il n'était pas peintre. Et je pense que souvent, quand on fait quelque chose qui n'est pas son domaine propre, on est meilleur parce qu'on n'a pas peur. Le grand problème quand on est artiste, c'est d'avoir peur. Et alors c'est pour ça que les artistes jeunes sont bons parce qu'ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas peur, et puis que les artistes vieux sont parfois bons parce qu'ils n'ont plus raison d'avoir peur. Et qu'au milieu, ils sont moins bons. Mais que quand ce n'est pas son métier principal, on a moins peur, donc le poids est moins lourd. Moi, je rêve toujours de faire une exposition sur le violon dingue, ce qui n'est pas ton cas, mais sur le travail à côté. Par exemple, Beckett a fait des films absolument admirables parce qu'il n'était pas cinéaste.
Et qui sont disponibles en DVD, hein, et qui sont effectivement absolument incroyables.
Le plus beau film qu'on ait fait pour moi. Et donc je crois que le fait de toucher à quelque chose, ça marche pas toujours, parce que Rob Grier était un mauvais peintre, par exemple. Mais parfois.
Tu veux dire un mauvais cinéaste.
Ça, je n'ai pas dit ça, un mauvais peintre.
Oui,
moi aussi, d'ailleurs, je crois aussi. Mais, donc, je
pense. Un bon roman,
c'est. Un bon roman, c'est. Voilà. Donc, ça marche pas toujours, mon truc. Mais quelquefois, effectivement, le fait de pas avoir peur, le fait d'être frais. Et Agnès a commencé la peinture d'une manière fraîche, comme si elle avait commencé, si elle avait 18 ans, qu'elle sort de l'école des Beaux-Arts. Et donc ça, c'est une sorte de grande force.
Mais la force, c'est que j'ai pas fait d'école aussi. Et que quand j'étais jeune, je me suis lancée dans la pointe courte, je connaissais pas le cinéma. Alors peut-être, j'ai pas eu peur, parce que si j'avais connu les chefs-d'œuvre que j'ai vus après, j'aurais peut-être pas commencé un film. Tandis que dans les arts, c'est marrant parce que je consomme beaucoup de musées d'art contemporain. Et j'ai quand même pas eu peur, c'est vrai. Mais je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Il y a eu le truc aussi de se dire, j'ai plus que 7-8 ans peut-être pour le faire. Allez, je me jette.
Et puis j'ai eu la chance. Mais comment ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression que ça revient depuis longtemps. Et
mais
ça
j'avais toujours
depuis
envie.
Longtemps.
La première fois, j'ai été invitée à la Biennale de Venise par Hans Ulrich. Et je crois qu'il voulait diversifier les gens qui... Alors, je me suis lancée dans Patate Utopia avec les trois écrans, avec des patates par terre et tout ça. Avec
et toi-même en patate ?
Non, mais ça, c'était pour faire la battle. J'avais tellement peur que personne ne vienne. Je faisais comme dans les cirques. Je me baladais en patate pour leur donner l'idée d'y aller.
Je pense que il y a aussi quelque chose qui s'est passé. C'est que ce que j'appelle la peinture, c'est imprégné de tous les arts autour et à manger. Ça a mangé d'une certaine mesure la photographie. Ça a mangé le film, ça a mangé la musique, ça a mangé, enfin, ça a mangé et ça a recraché d'une autre manière.
Mais ce que tu appelles la peinture, tu veux dire les installations.
Le monde des arts plastiques, disons.
Oui, parce que c'est pas la peinture.
Non, hein. Le monde des arts plastiques n'a fait que se nourrir de beaucoup d'art autour. Et que, par exemple, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup au son. Et c'est encore de se nourrir d'autres choses. C'est-à-dire que il me semble que ce qu'on a, j'aime pas le mot art plastique, donc c'est pour ça que j'aime sa peinture, a depuis
comme
30
Agnès,
40
elle
ans,
a dit dans la première émission, plastique, ça fait plastique.
Voilà, plastique, j'aime pas ça. Donc 30 40 ans, ça a mangé des arts autour. Et le fait aussi de progrès technique, je ne sais pas si c'est un progrès, je ne sais pas si c'est le progrès, mais enfin, ils ont une nouvelle technique qui est la vidéo,
a permis de. Multimédia, c'est pas mal, je trouve. Parce que ça veut dire l'espace, le son, les images. Je ne déteste pas le multimédia, moi.
Moi, tout ça, je n'aime pas ça.
Non.
Moi, j'essaie de dire. Quand j'étais professeur aux Beaux-Arts, j'étais plasticien polyvalent. Je trouve ça toujours aussi.
Moi, j'essaie de dire, je suis incapable. Mais.
Moi, j'aime mieux dire peintre, parce que d'abord, ça fait chier.
Oui, non, mais je suis peintre. Moi, je n'ose pas dire peintre.
Je suis peintre, parce que. En gros, la grande chose, c'est que quand tu es. La différence entre, justement, toi et moi, entre un cinéaste et un peintre. Quand tu es cinéaste, c'est que moi je travaille avec l'espace et pas avec les mots. Et que quand on est cinéaste, on travaille avec des mots généralement et avec le temps.
Et des images et le temps.
Voilà. Oui. Donc c'est une différence. Donc moi ce que je fais est plutôt du côté de la peinture ou de la sculpture. Et puis René, par exemple, est plutôt du côté du cinéma. Voilà.
Oui, mais moi, c'est des pompiers ou la police ? C'est pas les mêmes, hein, quand même.
Ah oui ?
Mais pour eux. Moi, depuis que je suis passée à artiste, si tu veux, c'est que j'ai...
Passée à artiste, c'est une jolie expression,
troisième,
ça.
J'ai viré ma critique. J'ai la dimension, la troisième dimension, et l'installation, je déteste pas ça. J'installe les choses. Et j'ai
mais
changé
tu l'as
le...
toujours fait, y mais compris dans ta oui, maison,
non,
en
mais j'ai changé
ménagère.
Le rapport des gens qui regardent au film que je fais. C'est complètement changé.
Moi, je suis pas sûr que tu aies changé. Je pense que c'est la même chose. Je pense que ce que t'as apporté, la peinture, enfin, les arts... C'est aussi la légèreté que tu recherchais dans le cinéma, que tu as trouvé dans le cinéma. C'est-à-dire d'arriver à faire des films toute seule et sans attendre 10 ans pour avoir un producteur et pour avoir une avance sur recette. Et la chose merveilleuse quand même de la peinture, c'est qu'on est notre maître. C'est qu'en gros, à part des choses extrêmement chères à fabriquer, on peut le faire à la maison, pratiquement.
Et moi, je tourne des fois avec une caméra grande comme la main.
Et moi, ça, c'est une chose qui m'a... Tu sais que j'ai essayé de faire du cinéma dans ma jeunesse.
Mais j'ai vu l'homme qui tousse, moi.
Oui, mais
j'ai vu tous ces
gens. J'ai même fait un vrai film, enfin un vrai film, avec de l'argent du grec, là, du CNC, et qui est un film d'une demi-heure, comme ça, avec un chef opérateur qui était Bob Swain, d'ailleurs, qui a fait des films par ailleurs.
Ah, mais je ne l'ai pas vu, ce film-là.
Ça s'appelle Les 46 jours qui précédaient la mort de Françoise Guinoux, avec une vraie histoire. Avec mon neveu, ma nièce, qui joue. Enfin, un vrai film, quoi. Et ça a été horrible. C'est la théorie parce que le temps du tournage, il y avait 10 personnes à diriger et j'ai beaucoup de mal à diriger des gens. Je trouve qu'il y a un côté d'organisation et de direction quand tu fais des films que moi je suis totalement incapable. Voilà.
Et moi j'ai pas peur de ça du tout. Au contraire, je trouve formidable d'avoir des gens qui vous aident, qui sont spécialistes d'une certaine pente, d'une lumière, d'un truc.
Moi ce que j'aime bien, c'est gratouiller tout seul chez moi quand je peux. Je le fais de moins en moins d'ailleurs, mais ce que j'aime bien c'est ça.
Mais moi, je fais beaucoup de choses seules, effectivement.
Mais c'est... Et donc, le fait d'avoir tout de suite à répondre à des questions... En plus, j'y connaissais vraiment que rien. Alors, il me disait quel objectif. Je disais un truc au hasard, parce que j'avais aucune idée. Et tout le monde criait, tout le monde s'engueulait. C'était affreux, absolument. Alors, j'étais content après ça au montage, parce que je montais avec un type gentil. Le montage, c'est comme un travail de peintre, un peu.
Oui, ça,
c'est... On est tout seul dans le noir, puis on a le temps.
On est tout seul et c'est long. Ouais, avec Jean-Baptiste qui est là et un autre garçon, on a mis 9 mois à monter les plages d'Agnès.
Oui, ça m'étonne.
C'est
pas,
là que ça se fait Oui. Ça s'écrit, ça se discute.
Alors, le truc, alors, c'était il y a très longtemps, et donc j'ai monté avec des machines Atlas, c'était du 16 mm. Oui. Et alors, le truc extraordinaire, c'est ce qui est toujours le plus beau, c'est l'image arrêtée qu'on voit sur le petit écran. Oui, parce que l'image arrêtée est toujours splendide, parce que si je te fais ça, on ne peut pas savoir si c'est pour t'embrasser
ça,
ou pour te battre.
Ça, donc, pour dire à nos deux auditeurs, c'est Christian qui tape sur le dos de quelqu'un.
Il essaie de me taper dessus, on peut pas savoir et il s'arrête à temps.
On ne peut pas savoir si c'est un geste de douceur ou de brutalité. Et donc, j'étais toujours fasciné par...
J'espère quand que c'est, on un arrête, douceur,
c'est un geste de douceur. J'étais toujours fasciné quand on arrête l'image, que je trouve la chose la plus belle, et constamment j'avais envie de garder l'image arrêtée.
Mais c'est ce que tu as fait.
Et c'est ce que j'ai fait, évidemment, c'est pour ça que je n'ai pas fait de film.
Mais c'était vrai. Très beau.
Mais tout le monde travaille, tu sais que...
Tu l'as vu.
Oui.
Moi, j'avais 18 ans.
Oui, et tu sais que...
Avec les images arrêtées, qu'on pouvait arrêter, nous.
Oui. Et tu sais
donc
que
c'était Marquer, nous qui décidions de ce que nous voyons de Christian Botanski. Oui.
Mais tu sais que Marquer, maintenant, a pris dans des films qu'il a fait, il a ressorti des images arrêtées, ce qu'on appelle capture d'écran, qui crée maintenant des photographies d'un genre très particulier.
Ça veut dire quoi, capture d'écran?
Ben, que tu prends dans l'image qui bouge, les 24 images, tu choisis une des images, tu la captures. Tu la ressors, ça redevient une photographie. Tu en fais un négatif, si tu veux. Les photogrammes ou capture d'écran, on peut l'appeler comme on veut. Ce qui nous amène à dire que nous essayons de capturer quelque chose, quand même. On est toujours, je trouve, dans nos travaux, en même temps flemmard. Moi, je suis très flemmarde et j'ai tout le temps envie de faire quelque chose. En fait, je suis tout le temps en train de me dire, j'ai envie de faire ça, je devrais faire ça, voilà.
Non, tu sais, le truc, c'est qu'on... nous ne sommes plus que notre œuvre. Au bout d'un certain temps, tu sais, j'ai toujours cette histoire qui m'amuse. Je dis toujours que plus on vieillit, plus on ressemble à son œuvre, et que Giacometti ressemblait à Giacometti, ce qui est vrai, Francis Bacon à Francis Bacon, et moi une boîte de biscuits, parce que je me suis servi de boîte de biscuits. Mais
une
patate. Mais en dehors de cette plaisanterie, effectivement, c'est d'ailleurs, je pense, le sens de ce que nous sommes, c'est de devenir notre œuvre. Quand tu te promènes rue Daguerre en achetant tes patates, justement, tu es œuvre.
Oui, mais moi,
star,
je veux bien rester une patate, mais je suis une patate en forme de cœur.
Oui, c'est ça.
C'est quand même pas tout à fait pareil. Je ne suis pas que alimentaire.
Il y a un chat qui arrive, un joli chat.
C'est bien.
Mon chat, hier, j'étais furieux. Je rentre de Milan, fatigué, genre 6 heures du soir. Je vois qu'il s'agite beaucoup. Il avait attrapé un oiseau dans le jardin. Il était en train de bouffer l'oiseau.
Non.
Oui, c'est ce qui m'a énormément déplu. Donc, j'ai foutu mon chat dehors. J'ai pas osé prendre l'oiseau qui a disparu sous un meuble. Et ce matin, il n'y avait plus d'oiseau.
Mais il l'a mangé, bien sûr.
Donc je pense qu'il a, il a mangé.
Mais alors ça, on peut... Tu sais, les gros poissons mangent les petits, les chats mangent les oiseaux. Les
oui,
oiseaux
mais pas devant mes yeux. Je suis d'accord avec ça.
Voilà. Donc ça veut dire...
Pas devant...
Notre position dans le monde, on ne veut pas regarder parce que
voilà,
des choses horribles se passent tous les jours.
Absolument.
Et on est obligé de ne pas les regarder, absolument. Sinon on ne vivrait pas.
Non, bon, ben là, Christian, il nous reste quelques secondes. Hein. Toi qui es le maître du temps. Hein.
Non, mais...
Ta faim, peut-être, tu veux
absolument,
dîner.
Absolument, oui.
On va manger, j'ai préparé. J'ai fait préparer par Sylvia.
C'est bien.
C'est salade, mix avec pommes de terre râpées, pommes râpées et soja, et veau aux carottes et aux pruneaux.
Ça a l'air merveilleux.
Ça marche ?
Merveilleux.
Une petite bouteille de vin déjà arrivée du Rouennais.
C'est merveilleux.
Parfois, et formidable. Du pain, une miche de pain et des mandarines.
Et ce soir, je dois servir un truc au musée Bourdelle.
C'est pas fini alors pour toi, la nuit.
Non, je vais faire un truc encore.
Moi, c'est pas fini non plus.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être.
C'est avec Trop beau de L'homme pâle que nous allons nous quitter ce soir, non sans espérer que nous nous retrouverons demain pour la 5e et dernière émission consacrée à Agnès Varda sous forme d'autobiographie sonore. Ce sera Agnès par Varda ou Varda par Agnès, vous verrez bien. Merci à Élodie Royer pour ses recherches dans les archives, merci à Anne-Sophie Dazard et à Jean-Baptiste Dibert. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé, comme chaque soir, cette émission. Et dans le jardin de la Fondation Cartier à Paris, vous trouverez installée depuis 2016 la cabane d'Agnès en hommage à un de ses chats, Zgouzgou. Et à partir du 12 juillet et jusqu'au 10 novembre, une sculpture d'Agnès Varda, un tronc d'arbre sur lequel elle a disposé une sculpture de son chat Nini en bronze. C'est sa dernière œuvre. Après le journal d'information, vous retrouverez comme chaque soir Mishka Asayas pour son Very Very Good Trip.